Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi avec Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Et bien, dans cette deuxième tranche de l'émission, nous allons parler de la convention Sicomine. Quels sont les avantages et les risques pour la RDC? Nous avons dans cette émission Monsieur Babi Matabishi, qui est membre du collectif Congo n'est pas à vendre. Et dans ce studio, Dr Dick Chaka, membre du consortium Le Congo n'est pas à vendre. Dr Dick, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Bienvenue dans cette émission. On aura monsieur Babi Matabishi tout à l'heure en ligne. Dans cette émission, vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces thématiques. Le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Jean-Claude Siala, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
Spécial Okapi Service sur l'intelligence artificielle et le développement de compétences en informatique. Mercredi 16 avril 2025 à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle, de 10h à 12h. Un rendez-vous à ne pas rater sur les plateformes digitales de
Radio Okapi.
Étudiants, entrepreneurs, enseignants, chercheurs et amoureux de nouvelles technologies, venez découvrir comment l'intelligence artificielle peut révolutionner plusieurs secteurs et changer nos vies. Rendez-vous avec Jody Daniel Kachama et l'équipe d'Okapi Service le mercredi 16 avril de 10h à 12h à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi.
Bien, merci d'être là à l'écoute de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Vous savez, la RDC a signé un accord de partenariat avec un consortium d'entreprises chinoises appelé Convention Sino-Congolaise des Mines, Sicomine en sigle, depuis 2008. Cet accord prévoit la construction par les consortiums des infrastructures telles que les routes, les hôpitaux, les écoles et des projets énergétiques en échange du droit d'exploitation de certaines ressources minières comme le cuivre, le cobalt ainsi que d'autres matières. Alors cette convention suscite cependant des débats et controverses dans l'opinion publique, notamment en ce qui concerne la transparence des accords, les impacts environnementaux et les bénéfices réels pour la population congolaise, surtout l'avenant 5 qui pose problème pour certains. Alors quels sont les avantages et les risques de cette convention? Que faut-il faire pour arriver à un partenariat Sicomine RDC? Voilà, un contrat, un partenariat gagnant-gagnant. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons en ligne Monsieur Babi Matabishi, qui est membre du collectif Congo n'est pas à vendre. Et dans ce studio, Dr Dick Chaka, qui est le coordonnateur de ces consortiums appelés le Congo n'est pas à vendre. On commence avec Monsieur Babi Matabishi. Bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes membre du collectif Congo n'est pas à vendre. D'abord, pouvez-vous nous présenter ces collectifs, ces consortiums Congo n'est pas à vendre? C'est quoi votre vision? C'est quoi la mission?
Nous sommes une campagne, une coalition de lutte contre la corruption. Nous sommes un consortium des organisations de la société civile et des mouvements citoyens. Et l'objectif pour nous, c'est de dénoncer et de contribuer de manière substantielle afin de, d'éradiquer les pratiques de corruption qui gangrènent la vie économique de notre pays et qui laisse la population dans la misère. Et donc, nous sommes juste une campagne qui lutte contre la corruption.
Bien, alors nous parlons de la convention SICOMINE, qui est la RDC et un consortium des entreprises chinoises a signé cette convention. Donna, comme on l'a dit, voilà, nous allons bénéficier, nous avons 7 milliards chaque année, et puis et ils auront droit à l'exploitation minière. Alors, votre collectif déplore, tire la sonnette d'alarme par rapport à l'avenant numéro 5. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui pose problème? Quelle est la difficulté ou les défis ou les risques qu'il y a dans cette convention?
Et donc, si je dois parler de l'avenant 5, il faut d'abord partir de l'historique. Et dans l'historique, il faut comprendre que la convention est signée en 2008. Et lorsque la convention était signée, au départ, c'est que les entreprises, les groupements d'entreprises chinoises devraient apporter des capitaux en termes de prêts pour développer les projets miniers et développer les infrastructures en RDC. Et en contrepartie, c'est que on devait faire une exploitation minière industrielle. Et de cette exploitation industrielle, on devrait rembourser ce que le groupement d'entreprises chinoises devrait apporter comme prêt, plus les intérêts cumulés. Et lorsque le contrat ou la convention est signée en 2008, la convention était hors du commun, partant de la politique et de la législation minière en RDC. Et déjà à l'époque, nous avions commencé déjà à attirer l'attention des autorités et du grand public qui avait un déséquilibre structurel dans la signature de cet avenant-là, et de la convention. Et à chaque fois, on revenait pour dire que c'était important pour que la convention-là soit révisitée. Et comme vous le savez bien, l'avenant 5 est le résultat d'une renégociation pour essayer donc d'équilibrer les intérêts entre les parties. Mais malheureusement, selon notre lecture, après un processus de renégociation, ce qui est dans l'avenant 5, c'est que ça perpétue ce déséquilibre qui a été décrié pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez l'avenant 5, c'est que les clauses de cet avenant ne résout pas les problèmes structurels qui étaient déjà dénoncés il y a plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, l'avenant 5 démontre noir sur blanc que les renégociations ont accouché une souris et ce déséquilibre-là structurel est resté. Donc voilà un peu pourquoi la campagne « Les Congos n'est pas à vendre » est en train de toujours d'alerter pour démontrer que le déséquilibre continue.
Bien, docteur Dick Chaka, vous êtes le coordonnateur du consortium Le Congo n'est pas à vendre. Alors, c'est quoi le vrai problème avec cet avenant avenant 5? Parce que cette convention SICOMINE, si je comprends bien, ça profite aux deux parties, le Congo gagne et puis le consortium des entreprises chinoises aussi gagne.
Très bien, mais comme venait de le dire tout à l'heure Baby, l'avenant 5 en lui-même comporte une perpétuation des erreurs et des faiblesses qui ont été déjà décriées dans l'avenant signé en 2008. Par exemple, on a parlé de 5 grands points. On a pu démontrer 5 grands points dans ce rapport qui démontrent ces déséquilibres et ce problème structurel dans le contrat. Le premier point porte sur la reconduction des exonérations fiscales qui étaient très généreuses et qui sont non évaluées et non contrôlées par la RDC. Le deuxième point porte sur une gouvernance à huis clos et un circuit qui n'est pas normal et qui est en dehors du contrôle réellement du gouvernement. C'était un circuit qui était un circuit spécifique au contrat SICOMINE et qui ne permettait pas de pouvoir canaliser directement les ressources liées à SICOMINE dans les caisses, disons, dans le budget de l'État. Le troisième point porte sur un bilan de 16 ans qui était lié à un déficit d'exécution du contrat de la part de l'entreprise chinoise par rapport aux différentes infrastructures qu'elle était censée construire pour le pays. Et quatrièmement, il s'agit aussi de parler de cette victoire illusoire qui avait été annoncée par l'actuel gouvernement. Vous savez bien que c'est au décours de toutes les dénonciations que nous avons faites, qu'on n'est pas à vendre la a faite, que le gouvernement s'est saisi de la question SICOMINE et a dit effectivement, a reconnu qu'il y avait un problème dans l'exécution de ce contrat et qu'il fallait renégocier. Mais malheureusement, le résultat auquel on a abouti est un résultat qui ne garantit pas les intérêts de la RDC et fait même reculer d'une certaine manière par rapport aux acquis de ce contrat. Et cette victoire n'est donc pas une victoire en soi, comme Baby le disait, cela a accouché d'une souris. Et cela, à travers cet avenant consacre de nouvelles formes de manque à gagner.
Lesquelles par exemple?
Comme c'était dit dans ce que l'IGF avait fait comme analyse sur le contrat SICOMINE, l'IGF avait dit qu'il y avait autour de 800 millions de dollars qui avaient été investis dans les 16 ans passés dans l'exécution de ce contrat, ce qui est déjà un montant extrêmement faible par rapport au niveau d'exploitation que la SICOMINE a eu à mener pendant toutes ces années. Mais aussi, les sources officielles, comme on disait, parlaient de 822 millions pendant les 15 ans au titre de financement des infrastructures, alors qu'en réalité, ceux-ci sont des prêts qui devraient être remboursés avec intérêt. Et quand on regarde un peu la hauteur de contribution des entreprises qui ont la même taille que SICOMINE au budget de l'État, on voit par exemple que Tenke Fungurume, Kamoa et les autres contribuent à environ 400 millions de dollars le mois, l'année, au titre de contribution fiscale au gouvernement. Et cela, si on le projette par rapport aux nombreuses années, pourrait générer 8 fois plus que le revenu que la SICOMINE aujourd'hui produit rapporte à la RDC. Mais aussi, selon les clauses de l'avenant 5, la partie RDC n'aura accès qu'à 324 millions de dollars par an pour financer les infrastructures si le cours du cuivre sur le marché mondial est supérieur à 8 000 $. Ce qui fait déjà qu'on a conditionné la contribution de la partie chinoise à l'évolution du cours du cuivre, et un cours du cuivre qu'on ne maîtrise sûrement pas et qui ne nous garantit forcément pas qu'on aura les moyens qui sont censés provenir de la partie chinoise pour financer les infrastructures. Et pour terminer, au cas où la tonne du cuivre va en deçà de 5 000 $, la RDC ne recevra rien du tout. Ce qui veut dire que si le cours du cuivre tombe à moins de 5 200, la partie chinoise n'est plus tenue à pouvoir
honorer ses engagements.
Donc, et si la tonne du cuivre va au-delà de 12 000 la tonne, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'exploitation de cuivre actuellement, cela, entre 8 000 et au-delà de 8 000, cela amènera à des nouvelles négociations. Ça veut dire, même là encore, il n'y a pas de garantie sur la hauteur de contribution à la partie chinoise, mais que cela pourra emmener à des négociations, à des discussions directes entre la RDC et la partie SICOMINE. Donc ça fait que les nouvelles formes de manque à gagner mettent le risque, font courir plus le risque du côté du gouvernement congolais que du côté de la partie chinoise. En y insérant la partie des exonérations et tout ce qui va avec, on voit bien que la victoire, elle est illusoire, parce qu'on n'a pas les garanties d'avoir les ressources qui sont censées être produites par ces contrats, par cet avenant, et que on est encore dans une phase d'espoir de voir que le cours du cuivre reste stable et que la RDC continue à bénéficier de...
Et pourtant, nous, on a retenu que chaque année que nous allons bénéficier des 7 milliards des dollars pour la réhabilitation des routes à travers la République.
Pas du tout. Ce n'est pas ça, effectivement. Les 7 milliards sont ce qui était censé être le montant global de l'investissement. Mais à ce jour, étant donné le montage qui est fait actuellement, on voit bien que on aura du mal, on n'a pas de garantie de pouvoir atteindre aussitôt ce montant lié, comme on l'a dit, aux exonérations qui ont été faites, aussi bien qu'au montage qui a été signé dans cet avenant pour pouvoir garantir la contribution de la partie chinoise.
Bien, Monsieur Baby Matavish, alors quelles demandes Congo n'est pas à vendre? Que cet avenant 5 soit encore rediscuté? Soit encore remis sur la table des discussions?
Oui, en fait, la question, elle est vraiment d'ordre technique. Elle est vraiment donc d'ordre économique. Et elle demande une préparation préalable pour toute négociation ou renégociation. La difficulté déjà par rapport à l'avenant 5, c'est que les circuits étaient vraiment fermés. Il y a vraiment donc moins d'informations qui ont circulé autour de la renégociation. Et la difficulté, c'est que les questions importantes n'ont pas été abordées lors de la renégociation. C'est comme Dirk était en train de le dire. Déjà aujourd'hui, lorsque vous évaluez les exonérations annuellement, elles sont supérieures lorsque vous essayez de modéliser. Vous allez vous rendre compte que les exonérations qu'on accorde à ces projets sont supérieures par rapport au montant qu'on doit allouer annuellement au niveau des infrastructures. Et comme Dirk le disait, c'est que ces montants-là même de 324 millions de dollars par année, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une garantie. Ces montants est conditionné par le prix du cuivre sur les marchés internationaux que la RDC ne maîtrise pas. Et donc déjà la question des exonérations dont on a du mal à quantifier, à calculer, et en termes donc de manque à gagner, c'est déjà un problème. Vous pouvez partir des chiffres officiels du gouvernement, vous pouvez lire par exemple un rapport là de 2013, c'est les rapports du ministère du budget, un rapport donc des dépenses fiscales. En termes déjà donc de manque à gagner sur les exonérations qu'on accorde à Sicomine, ces rapports mentionnent clairement qu'annuellement, les exonérations qu'on accorde à Sicomine, c'est autour de 443 millions de dollars. Mais déjà, si nous avons les exonérations autour de 443 millions de dollars et que annuellement nous avons 324 millions de dollars, déjà, il y a un écart qui se dégage. Et déjà, cet écart-là constitue déjà un manque à gagner.
Oui.
Et fois autant d'années, ça voudrait dire que les exonérations qu'on accorde à Sicomine, si je calcule les 16 ou les 17 ans qui restent pour ces projets-là, c'est déjà autour de 7 milliards en termes des exonérations. Et donc, aujourd'hui, pour dire qu'on a quand même besoin de renégocier. Et lorsqu'on va réouvrir la renégociation, c'est que la partie congolaise a besoin d'une bonne préparation avant d'aller dans les renégociations. Et mais, en réalité, les résultats de l'avenant 5 nécessitent une nouvelle renégociation pour équilibrer les avantages entre les parties.
Bien. Alors, docteur Dirk, dites-nous, lors de ces négociations-là, qui faisait partie de la délégation congolaise? Généralement, est-ce que la société civile, comme votre mouvement, est-ce que consortium, est-ce que vous avez pris part à ces échanges ou pas?
Non, le Congo n'est pas avant, n'a pas pris part à ces renégociations, mais il y a une commission qui a été instituée par le directeur du cabinet de chef de l'État, qui avait
une commission interministérielle.
Une commission, oui, d'experts et des membres du gouvernement qui avaient été mandatés pour pouvoir négocier ce contrat. Et bon, nous, en tant qu'on n'est pas avant, nous n'avons pas été associés à cela.
Mais il y a eu d'autres organisations de la société civile qui étaient là ou pas?
Il y a des acteurs de la société civile qui ont été associés à cela. Je pense que Baby pourrait mieux expliquer le processus lui-même, si Baby le veut bien, pour nous en parler un peu plus. Et cela a été soldé par un autre une autre question d'ordre éthique et moral liée à la répartition de jetons de présence liés à ces négociations qui étaient d'autour de 22 millions de dollars qui étaient remis à l'équipe de renégociation et qui devaient être tirés du financement des SICOMINE, donc de la partie qui négociait, et c'est un montant tiré de l'investissement.
22 millions.
Exactement. Je suppose que Baby pourra nous en parler un peu plus s'il le veut bien.
Mais c'est beaucoup, monsieur le docteur dit.
Non, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que sur les 22 millions de dollars, si on calcule combien d'infrastructures pouvaient être construites avec ces 22 millions de dollars, ça signifierait qu'il y a des Congolais qui se sont répartis quelques routes, quelques hôpitaux, quelques écoles.
Et ça va dans les gestions.
Et ça entre dans les montants liés à l'investissement dans les infrastructures. Et sachant bien sûr que les personnes non datées avaient la possibilité d'être payées directement par la République, c'est donc encore une autre question qui se pose sur notre propre éthique dans le processus des renégociations de ces contrats, où l'une des parties est celle qui paye sur l'argent qui est censé revenir aux investissements. Je pense que Baby pourrait nous en dire un peu plus pour nous donner un peu plus de détails sur cela.
Bien, on va accueillir Justin Koulou qui nous appelle de Fungurume. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Jody, et je dis bonjour à nos invités qui sont au studio.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, d'accord. On n'est pas trop exigeant de savoir les clauses de leur contrat, mais nous retenons qu'il y a la réhabilitation des routes et installation des routes et des écoles et des hôpitaux, bien sûr. La loi congolaise nous demande, si vous êtes le chef d'œuvre, vous n'allez pas concourir encore au marché. C'est les Chinois qui ont signé ces contrats avec les Congolais. Mais ce que nous remarquons, ce que je parle, c'est on est en train de réhabiliter d'asphalter la route entre Ngouba vers Kasai, contourner vers Kinshasa. Je connais les réalités qui se passent sur les tronçons de Ngouba à Lubudi. Donc les Chinois ont lancé l'appel d'offres et ce sont eux-mêmes qui ont encore décroché les contrats. Donc dans la loi congolaise, si tu es le chef d'œuvre, ou soit un politicien ne peut pas aller créer son entreprise, ou soit un administrateur, ou soit un comptable, ne peut pas concourir au contrat, parce qu'il risque de tourner ses affaires dans ses inclinations. Alors, les Congolais, nous avons une société qu'on appelle CREC 7. C'est pour toujours les Chinois, c'est une particule des Sino-Congolais à qui on a attribué le marché. Nous voyons sur terrain, on n'a jamais vu l'équipe du gouvernement supportée par le gouvernement, puisque si on les laisse être supportés par le Chinois, ça sera une corruption morale, ils ne feront pas les suivis convenablement. Et pour savoir quelle est la qualité de la route qu'on est en train de nous façonner, donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de qualité d'une bonne route. Or, c'est dans leur cahier de charges, c'est dans leur obligation. Nous sommes en train de perdre nos minéraux à condition que nous bénéficions aussi des bonnes routes, des bons hôpitaux, des écoles, mais on est en train de nous fabriquer des histoires dérisoires après des pluies diluviennes et la route est coupée, la route est et pour les faire revenir. Je prends encore l'exemple de la route Luambo Mitwaba. Les Chinois étaient déjà partis, vous trouvez sur la route là les jeunes gens du village environnant en train de réparer la route. Qu'est-ce qu'ils vont, par quelle méthode ils vont réparer? Je voulais demander au gouvernement ceci, qu'on associe l'équipe de contre-vérification. Moi-même, je suis sur place, si je serai aussi ajouté, parce que j'ai besoin de voir les bons fonctionnements et les bons rétablissements de nos routes. C'est une route où on a coulé des salives pendant longtemps. C'est une route qui va désengorger les villes, qui va amener, en tout cas, c'est une route de première nécessité, d'Ngouba au Kasai. Et si on le fait deux semaines après, il y a des vallées, il y a des montagnes, telles que les Kalouls que vous écoutez. Si on ne mélange pas bien les histoires, c'est dans deux semaines que la route sera encore coupée. Alors je demanderai de faire un bon suivi, un contrôle rigoureux, sans sentiment, pour que l'ouvrage au bénéfice de la population soit vraiment utile longtemps. En tout cas, c'est ce que je voulais demander. Comme notre invité est au studio, il pourra s'inscrire en imposant.
Merci Justin.
En demandant, parce qu'on ne peut pas.
Merci, oui, oui. Merci beaucoup Justin Koulou depuis Fongourumé. Monsieur Baby Matabishi, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, je crois que, comme je l'ai dit, ce que Monsieur Justin venait d'évoquer, c'est parmi les déséquilibres hein, dont on a toujours décrié dans la mise en œuvre hein, de la Convention Sicomine. Parce que ce qui était prévu au départ, pour ce qui est de la réalisation des infrastructures, ça voudrait dire que lorsque on ne trouve pas de l'expertise au niveau de la main-d'œuvre congolaise, il faut toujours faire recours à des entreprises chinoises. Et ce qui est drôle, c'est que les mêmes entreprises du consortium sont les mêmes entreprises qui réalisent les activités sur terrain, hein, comme ce que Monsieur Justin était en train de les dire. Et donc, pour nous déjà, lorsque vous prenez l'avenant 5, ce qu'on a toujours insisté, c'est voir dans la mesure du possible comment on devait transférer les compétences à la main-d'œuvre congolaise. Malheureusement, la chose qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec M. Justin. Je pense que dans les jours à venir, nous allons publier un autre rapport qui se focalise uniquement sur la partie infrastructure réalisée dans le cadre de la convention Sicomine. Donc pour dire que on a quand même besoin c'est de contre-vérifier parce que le vrai problème c'est d'évaluer les coûts et la qualité des infrastructures qu'on nous réalise. Sans pour autant peut-être entrer dans plusieurs détails, par exemple la route là dont M. Justin est en train de faire mention, je peux juste vous donner un exemple. C'est les boulevards du 30 juin à Kinshasa, de la gare centrale à Kitambo Magasin. Ça fait 5 kilomètres. Mais quand vous prenez les 5 kilomètres, ont coûté plus de 40 millions de dollars. Et quand je divise, même si je prenais 40 millions de dollars, quand je divise 40 millions de dollars par 5 kilomètres, c'est que les kilomètres coûtent 8 millions de dollars. Or, pour construire une école, pour construire une route, ça veut dire qu'il y a quand même des standards qui existent. Et je pense que déjà que le boulevard a coûté plus cher que même les standards de la Banque mondiale. Ça voudrait dire quand même qu'on a
Monsieur Baby, souvent on nous dit ouais. Un kilomètre de route, c'est un million de dollars. Bon, selon les estimations.
Voilà, donc si c'est un million de dollars, donc si même j'exagère, je peux même aller à 2 millions, même à 3 millions. Même si j'arrivais à 3 millions de dollars le kilomètre, c'est que le boulevard du 30 juin ne pouvait pas coûter 40 millions de dollars, par exemple, parce que c'est un tronçon de 5 kilomètres.
Voilà, donc il y a déjà un gros souci on parle de tout ça. Alors, donc on voit qu'il y a des faiblesses, il y a des déséquilibres dans la négociation, donc c'est la partie congolaise qui perd. On est beaucoup plus perdant, si je comprends bien, Monsieur Baby, et qu'il faut rapidement corriger cela.
La réalité est celle-là, c'est que nous avions négocié, on a renégocié, mais le même problème que nous avions décrié, c'est le même problème hein, qui est en train de se perpétuer, et la difficulté, comme Dirk le disait, même là où on semblait mieux faire avec l'avenant 5, par exemple pour ce qui est de la fourniture des infrastructures, c'est que nous sommes maintenant dans une certaine incertitude. Pour dire, il y a des années où on peut arrêter de financer les infrastructures parce que le prix du cuivre qu'on ne sait pas contrôler est en dessous de 5200 dollars la tonne. Et pour dire que ce ne sont pas des circonstances qui ne peuvent pas arriver. Quand vous prenez par exemple en 2016, le prix moyen annuel du cuivre était à 4800. Si nous arrivons donc dans la situation de 2016 par exemple, Sicomine arrête de financer les infrastructures. Et donc, la victoire qu'on est en train vraiment donc de crier tous les jours, en tant que le Congo n'est pas à vendre, donc nous estimons que cette victoire-là est illusoire.
Bien, on va accueillir un autre auditeur. Il s'agit d'Ismaël Mumpoy qui est à Lubumbashi. Ismaël, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour Jordi. Bonjour à tous mes amis auditeurs de la radio Okapi. En fait, ma première préoccupation est celle de savoir comment on peut distinguer une convention républicaine, et les entrepreneurs locaux. Parce que là, on ne voit pas un peu la différence entre ce que la Chine et la RDC ont signé comme convention pour les infrastructures routières, le bâtiment et consorts là. En termes de pourcentage par rapport aux années dont ils ont exploité les minerais, ils ont déjà effectué combien de bâtiments, combien de kilomètres de routes ils ont déjà effectué. Bon, en plus, je pouvais dire bonjour à mon ami Justin Koulou. Je pouvais dire, Moulopoué, ce qu'il a dit, c'est la réalité palpée sur le terrain. Mais en plus, ce que nous étonnons, ben, c'est autant d'années que les Chinois sont sur notre terrain et qui sont en train de... la route principale où ils importent leurs minerais. Mais ça fait plaire au peuple congolais. Nous ne voyons rien du tout. La question, parce que j'avais oublié de dire la sous-traitance et la convention entre la République démocratique du Congo et la société chinoise. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Parce qu'on ne voit pas la différence. Tel qu'il a dit Greg 7, bon, c'est Greg 7 là, il fait les gens comme journaliers. Et ils ont les minerais, ils ont l'argent, ils ont tout, mais la façon dont même ils traitent même le peuple congolais, Jody, je vous dis, faut venir au Katanga, au Louisa, à Lubumbashi, pour voir un peu ce qui se passe. Comment on peut faire un peu cette différence-là? On peut leur demander autant d'années que cet accord a été signé, et au jour d'aujourd'hui où nous sommes avec vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fur et à mesure, les minerais sont en train d'être épuisés. Le peuple congolais regarde comment on est en train de piller, les minerais sont en train de partir. Le même personne là, ce sont ceux qui disent, qui avaient signé ce contrat là avec cette société chinoise là, que les dirigeants actuels ou les régimes actuels ne font rien. Mais pourtant, ce sont eux qui sont à l'auteur. Nous avons la commission, la rétrocommission, par eux-mêmes là qui avaient signé cette convention là. Mais la distance qui prend Kolwezi vers Kamina. Mais ça prend combien d'années? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous voulons savoir réellement ce que cette société a fait. À mon humble avis, merci beaucoup, Inch'Allah.
Bien, merci Ismaël. Docteur Dirk, vous avez la parole.
Non, très bien, c'est des dénonciations qui sont très importantes à prendre en compte et nous espérons que le gouvernement est conscient de ces différentes faiblesses dans l'exécution des travaux aussi, des infrastructures elles-mêmes. Comme Baby le disait, le Congo n'est pas à vendre, va produire très bientôt une note qui est centrée sur les infrastructures sicomines. La qualité, les œuvres prévues dans le contrat, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, la qualité des travaux qui a été fait, les coûts aussi, comme on venait de dire. Mm-hmm. Et Baby le disait, globalement, les coûts exorbitants, mais pour des qualités très piètres, très faibles, des infrastructures. En même temps, la question du contrôle se pose. En même temps, la question de la transmission des connaissances ou alors le transfert des technologies. Et comme les auditeurs venaient de le dire, en 15 ans, la Sicomine n'a investi que autour de 822 millions de dollars dans les infrastructures. Et vous comprenez que le montant, non seulement il est faible, mais ne traduit même pas la hauteur des infrastructures qui auraient été produites avec ce financement. Et aujourd'hui, on a des routes qui n'existent plus, qui sont censées avoir été construites, mais qui n'existent plus. On a des routes, comme ils l'ont dit, qui n'ont jamais fait l'objet d'une finalisation des travaux. Il y a beaucoup de choses qui sont à redire sur les infrastructures. Donc, au-delà de l'aspect du gain et de revenus que ce contrat doit apporter à la RDC, il y a aussi la question du contrôle et de la qualité des œuvres qui doivent être produites par ces entreprises,
oui,
qui doit aussi intéresser le gouvernement et nous tous, en tant que membres de la société civile, on essaye vraiment.
Il doit y avoir des structures de contrôle. Ces structures coexistent, je pense.
Qui travaillent effectivement. Ces structures de contrôle, dans les accords avec la Sicomine, ont des parts d'argent qu'ils reçoivent pour effectivement faire le suivi de certaines activités. Et malheureusement, ces structures de contrôle ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le décrit, ces infrastructures ne sont ni de qualité, ni à la hauteur des besoins pouvant permettre de couvrir ou de surmonter les défis d'infrastructure que le pays a actuellement et qui posent énormément de problèmes.
Bien, Monsieur Baby, un commentaire là-dessus?
Oui, donc je voulais juste peut-être ajouter un élément et répondre un peu à la préoccupation de notre ami Ismaël pour dire que aujourd'hui les citoyens ont du mal à faire le suivi sur les infrastructures parce que il y a plus de liste hein, sur les infrastructures qu'il faut réaliser. Initialement, en 2008, lorsque la convention était signée, le gouvernement avait une liste hein, des infrastructures. Et aujourd'hui, ça devait être plus simple et plus facile pour les citoyens, c'est de regarder sur cette liste pour voir quelles sont les infrastructures qui étaient choisies et quelles sont les infrastructures qui ont été réalisées jusque-là. Et aujourd'hui, comme je le disais, un autre point de recul, évidemment, c'est sur ce point-là. Et en termes vraiment donc de suivi et de gouvernance, ça devient compliqué. Parce que on n'a plus la liste des infrastructures à suivre. Et donc, aujourd'hui, c'est que, bon, le gouvernement peut se décider, cette année, de réaliser X ou Y infrastructures. Au lendemain, donc, on choisit d'autres infrastructures, ainsi de suite. Et la difficulté, c'est qu'on a vraiment donc du mal à bien suivre hein, les infrastructures. Mais les échos dont on a, c'est vrai qu'il y a quelques infrastructures ici, et surtout, par exemple, ces deux dernières années, le focus pour les infrastructures, c'est beaucoup plus dans les Kasaï. Mais ça concerne que l'infrastructure. Du fait vraiment qu'il n'y a pas une liste qui détaille les infrastructures, ça met un peu en difficulté les citoyens à faire le monitoring sur les infrastructures qui sont en train d'être réalisées sur terrain.
Et quand vous parlez du Kasaï, on peut penser directement à la route Kananga-Kalambambouji.
Non, ça c'est vraiment un autre projet, mais il y a quand même donc d'autres projets et d'autres infrastructures qui sont beaucoup plus développées dans ces coins-là. Et la difficulté, c'est que comme il n'y a pas une liste déjà préétablie, et en tant que citoyen, on a vraiment donc du mal à bien faire les monitoring sur la réalisation des infrastructures.
Il y a aussi les rocades, on parle des rocades ici à Kinshasa.
Voilà, les rocades. Les rocades récemment. Mm.
Bien, donc, dans l'ensemble, on retient qu'il y a des équilibres qu'il faut corriger.
Tout à fait.
Et comment arriver à corriger cela? Est-ce que, je sais que le Congo, votre collectif est en train de mener un plaidoyer, mais est-ce que vous avez officiellement aussi saisi le gouvernement pour signifier votre plaidoyer?
Oui, effectivement. Bon, ça veut dire que nous sommes dans un processus de signifier nos préoccupations auprès des autorités.
Oui.
Et donc, tout part par les notes qu'on a eu à publier et donc dire que notre coordonnateur est en train de prendre des contacts avec les autorités pour qu'on essaye encore d'élever la voix et d'essayer de démontrer donc le problème qui nécessite cette révisitation. Et comme Dirk était déjà en train de le dire, pour nous, en fait, le premier point, c'est au niveau des exonérations qu'on accorde hein, à ces projets-là.
Des 443 millions. Exonérations, oui. Des exonérations de 443 millions de dollars.
Pardon?
Oui, vous avez parlé des exonérations de 443, de l'ordre des 443 millions de dollars.
Voilà, donc par année, c'est des exonérations. Donc si vous modélisez les exonérations qu'on accorde à ces projets-là, on est vraiment autour de 443 millions de dollars par année. Mmh. Et donc, quand vous prenez initialement, lorsque la convention commence avec les exonérations, et ces exonérations-là n'avaient pas une base juridique. La base juridique de ces exonérations vient en 2014. Et cette loi-là de 2014 qui accorde les exonérations à six communes, parce que pour nous, c'est vraiment un grand manque à gagner pour l'État. Et nous pensons que la RDC doit vraiment s'investir, par exemple, donc notre Parlement doit s'investir pour que cette loi-là de 2014 soit modifiée, parce que elle n'a pas sa raison d'être. Et cette loi vraiment donc renforce donc davantage ces manques à gagner-là. Qu'on est en train de parler en termes d'exonération. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comme notre ami Justin venait de le dire, et dire qu'il a dit, en tout cas, depuis que la convention est là, c'est que la partie chinoise n'a pas su se transférer la technologie à la main d'œuvre congolaise. Et comme conséquence, les mêmes entreprises du consortium qui ont signé avec l'État congolais, qui développent les projets miniers, ce sont les mêmes entreprises qui réalisent les travaux sur terrain. Donc, ils sont en même temps financiers, en même temps exécutants, hein, en même temps, donc ils sont vraiment tout.
Et la difficulté, c'est une sorte de
qui participe dans la réalisation des infrastructures. Donc ça, c'est aussi un autre problème qu'il faut regarder.
Et ça, c'est une violation de la loi sur la sous-traitance.
Non, en fait, le problème, c'est que est-ce que ça viole la loi? Bon, peut-être oui, mais peut-être non, parce que la loi là de 2014, donc sécurise les investissements chinois dans ce sens-là, parce que dans la convention, c'est clairement dit, là où on ne trouve pas de compétences au niveau de la RDC, c'est que c'est la partie chinoise qui réalise les infrastructures. Et donc, aujourd'hui, bon, la partie chinoise peut estimer qu'il n'y a pas de compétences au niveau
local,
au niveau congolais. Et donc, aujourd'hui, c'est que dans la renégociation, il faut aller dans le sens où les Chinois transmettre cette technologie à des entreprises congolaises. Et la réalité, c'est que ça fait plus de 16 ans qu'on réalise les infrastructures et ce sont toujours les Chinois qui les réalisent et aucune entreprise congolaise qui réalise les infrastructures dans le cadre de cette convention-là.
Bien, docteur Dirk, alors votre plaidoyer, est-ce que vous avez déjà saisi les autorités compétentes pour leur signifier votre lutte ou vos desiderata?
Effectivement, nous avons déjà organisé d'ailleurs une session de haut niveau avec les différentes parties prenantes à la question SICOMINE, où nous avons essayé d'échanger sur le constat de la note. Nous avons aussi la participation des experts et des quelques représentants des institutions, dont l'IGF, qui a donner ses arguments par rapport à la procédure de négociation elle-même. Nous espérons et nous voulons encore organiser un autre cadre d'échange qui nous permettra d'engager l'échange avec les députés, l'Assemblée nationale, parce que comme Baby le disait tout à l'heure, il y a une loi sur l'exonération fiscale qui a été faite sur mesure pour SICOMINE pour légaliser cette exonération. Et nous savons qu'aujourd'hui, cette loi couvre un certain nombre de pertes qui sont que connaît la RDC autour de ce contrat. Et donc, nous voulons organiser cette table ronde avec l'IGF, avec les députés, avec les différents ministères, pour discuter un peu de manière profonde et objective sur la problématique et d'essayer de projeter un processus par lequel on pourrait remettre la RDC dans ses droits et surtout tirer un gain sur l'exploitation de nos minéraux.
Vous savez, parce que telle quelque chose se présente, c'est la RDC qui perd.
Oui, tout à fait, la RDC perd énormément dans tous les sens. Ça veut dire perdre en termes non seulement de minéraux, perdre en termes des infrastructures, comme on dit, qui ne sont pas de qualité, perdre en termes de temps, parce qu'il n'y a pas non plus transfert de technologie. Perdre en termes de ressources, je peux dire dans le temps, parce que après les minéraux sont épuisables. Et donc après aussi, l'une des grandes recommandations que nous avons faites était de pouvoir inscrire cette convention sous le code minier, sous le régime du code minier. Parce que nous pensons que le régime du code minier garantirait davantage de bénéfices de la RDC et de ressources cette convention plutôt que de continuer à le garder sous forme d'une convention spéciale. Et on sait bien que le code minier a été mis en place effectivement pour éviter ce genre de convention spéciale. Et comme le disait l'un des experts qui a participé à ce forum de haut niveau, on ne peut pas continuer à penser à tirer profit d'une telle convention dans un pays à faible gouvernance comme la RDC, où il est tout à fait facile pour les différents investisseurs de passer à travers les mailles, de pouvoir mettre en place des mécanismes tout à fait opaques, et aussi aux acteurs et aux dirigeants de trouver dans ces conventions spéciales les moyens de pouvoir eux-mêmes être acteurs ou bénéficiaires de ces ressources sans garantir effectivement l'intérêt général. Donc c'est tout à fait important de pouvoir repenser profondément la procédure, et comme Bébé le disait, et je voulais revenir un peu sur la question de la constitution de la commission. La commission avait été constituée en avril 2023 et, comme Bébé le disait, il n'y a pas eu des termes de référence qui ont été clairement établis pour le travail de la commission.
Il n'y en avait pas.
Il n'y avait pas de termes de référence, en tout cas qui n'ont pas été mis à la place publique. On les a cherchés, on ne les a pas trouvés. On n'a pas non plus vu le rapport qui a été rendu par cette commission qui, au fait, permettrait de voir par quel mécanisme ces commissions ont fait le travail des renégociations. Et comme on a dit encore, cette question de jetons de présence de 22 millions de dollars qui a été demandée et gérée par l'IGF pour le compte de cette commission est quand même une question éthique très importante qui questionne réellement sur notre propre volonté à vouloir changer les paradoxes sur la question de l'enrichissement des acteurs, des individus, au détriment de la communauté et de l'intérêt général. Et ça, c'est des choses qui méritent d'être questionnées et de voir par quel mécanisme on peut y mettre un terme, prévenir ces genres de choses et surtout tirer les bonnes leçons et s'engager sur des voies qui permettent à l'RDC de garantir ses intérêts dans ce genre de partenariat.
Déjà, est-ce qu'on peut même évaluer déjà en termes d'emploi? Est-ce combien de Congolais aujourd'hui ont trouvé de l'emploi grâce à ce contrat? Parce que quelqu'un a semblé dire tout à l'heure qu'il faut aller voir dans quelles conditions les Congolais travaillent dans ces entreprises-là.
Tout à fait. C'est toutes ces questions-là qui méritent d'être vues de près. C'est vrai que aujourd'hui, l'entreprise Sicomine fonctionne. Il y a des Congolais, bien sûr, qui travaillent. Mais en termes d'infrastructure, comme on a dit, les entreprises chinoises emploient combien de Congolais? Quelle est la qualité de paiement qui est assurée à ces Congolais? Quelle est la qualité de contrat aussi, en fin de compte, la qualité des œuvres qui sont réalisées par ces entreprises? Tout cela questionne et mériterait vraiment que les gouvernants prennent la question avec beaucoup de d'engagement, de profondeur. C'est vrai que le contrat a fait plusieurs années maintenant, on est au-delà de 15 ans. Donc on a quand même les moyens de tirer des leçons, d'apprendre et d'améliorer pour pouvoir garantir que la RDC tire réellement bénéfice de ce genre de partenariat. N'oubliez pas qu'il y a encore ces discussions avec le partenariat avec les États-Unis et tout le reste. Donc on doit quand même être une société apprenante qui tire de leçons de ces engagements et trouve les moyens les mieux adaptés pour pouvoir s'engager sur des réformes et des actions et des investissements.
Et en passant, est-ce que ce contrat, cette convention a été mise sur la place publique pour que chaque Congolais puisse consulter?
Exactement, la convention a été mise sur la place publique et nous pensons aussi que dans le cadre du processus de renégociation de cet avenant, il sera important de pouvoir associer toutes les expertises possibles pour aussi bien la participation des experts qui ont énormément d'expérience dans le domaine et qui sont prêts à pouvoir parler avec le gouvernement pour mettre en place un cadre et des mécanismes qui permettra à la RDC de garantir réellement ses intérêts et de rééquilibrer cet accord avec les entreprises chinoises.
Bien, Monsieur Bébé, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Donc, on comprend qu'il y a besoin de revoir, de renégocier cette convention, particulièrement l'avenant 5. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant de terminer cet entretien? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Docteur Dikra a parlé de la table ronde, de tout ce que vous comptez faire comme plaidoyer pour arriver à cette renégociation. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dessus?
Comme je le disais, vous voyez, là, nous parlons de l'avenant 5. Ça veut dire que si on parle de l'avenant 5, ça veut dire qu'il y avait eu un premier avenant, il y a eu donc jusqu'au quatrième avenant, et là on est au cinquième avenant. Pour dire que nous pouvons renégocier quelque chose, et par la suite, on se réalise par exemple qu'on a été roulé ou les choses n'ont pas été bien rediscutées. Et la question la plus importante pour nous, c'est qu'il faut vraiment réouvrir, en tout cas, le débat. Et il nous faut une très bonne préparation avant d'aller dans la renégociation, comme le disait Dirk. Et donc, nous avions eu bon une commission d'ailleurs depuis que les secteurs miniers et secteurs miniers au Congo, parce que ce n'est pas la première renégociation que la RDC venait de faire. On a eu plusieurs renégociations, mais c'est pour la première fois où nous avions eu une commission de plus de 260 personnes. Et quand on prend donc la commission de 260 personnes, mais les résultats de cette commission restent quand même à désirer quoi. Et donc on a quand même besoin d'avoir donc des bons techniciens, les gens qui vont vraiment donc bien comprendre les choses, qui ont vraiment une bonne maîtrise donc sur la question, sur les secteurs extractifs, sur des questions économiques, avant vraiment de recommencer cette nouvelle renégociation. Bref, il nous faut une bonne préparation et cette bonne préparation demande à ce que les choses soient vraiment ouvertes, pas toujours donc des circuits un peu parallèles, donc centralisés vraiment donc à la présidence, ainsi de suite. C'est bien bon de les faire, mais ça nécessite quand même une bonne préparation. Si on a vraiment une bonne préparation, j'estime que la renégociation pourrait nous amener à un équilibre entre les parties.
Bien, merci beaucoup Monsieur Baby Matavichi. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Congo n'est pas à vendre. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Bien, on va conclure avec Dr Dirk Chakam, qui est le coordonnateur du consortium Le Congo n'est pas à vendre. Nous parlons de la convention SICOMINE aujourd'hui. Quels sont les avantages et les risques pour la RDC? Alors, les avantages sont lesquels et les risques? Bon, on en parlait déjà, mais vous pouvez toujours rappeler Dr Dirk et puis nous dire en conclusion ce qui doit être fait rapidement pour corriger les choses.
Alors tout à fait, les avantages, on dirait que ça c'était attendu que effectivement à travers cette convention ou ce contrat de partenariat, la RDC tire bénéfice de ces minerais pour pouvoir investir dans les infrastructures. Et cela avait généré effectivement beaucoup d'espoir et beaucoup en tout cas d'enthousiasme de la part de plusieurs acteurs. Et malheureusement, le constat est que après plus de 15 ans, la hauteur de financement des infrastructures reste très faible, la hauteur de mobilisation de ressources liées à cette convention par l'État est très faible, les mécanismes de contrôle qui sont liés à l'exécution de ces travaux et du contrat sont très faibles, les circuits parallèles qui avaient été institués pour gérer la convention SICOMINE n'avaient pas non plus permis d'instaurer un système de transparence et de redevabilité qui assurerait davantage l'intérêt collectif et le contrôle de tous les citoyens. En fin de compte, l'avenant 5 a été signé et nous pensons qu'elle représente plus de risques encore parce qu'elle n'a pas garanti les revenus dont la RDC a besoin pour pouvoir investir réellement dans les infrastructures. Elle n'a pas mis en place non plus un mécanisme qui permet de surmonter les déficits liés d'une part aux exonérations et d'autre part aux investissements de la SICOMINE. Troisièmement, elle n'a pas permis de mettre en place des mécanismes de transfert de technologies qui permettraient à la RDC progressivement de prendre en main la construction de ses propres infrastructures. Quatrièmement, nous pensons que la RDC aurait plus intérêt à penser à remettre cette convention dans le cadre du code minier, parce que dans ce cadre-là, les revenus seraient plus ou moins garantis et la République aurait les moyens de pouvoir se servir de ses revenus pour elle-même investir dans les infrastructures. Mais aussi, il est important de pouvoir repenser le processus éthique de renégociation qui permet de choisir les bons acteurs avec les bons profils et éviter en plus de voir ces montants censés être injectés dans les infrastructures servir à payer les négociateurs. Mmh. C'est tout à fait une pratique qui n'honore pas et qui ne garantit pas l'éthique qu'il faut pour les acteurs qui doivent intervenir dans ces genres de négociations, qui sont des négociations.
Ils étaient au nombre de combien? Est-ce que vous avez
une idée? Plus de 200. Plus de 200. 260 personnes. Et
c'est quand même beaucoup.
C'est énormément de personnes. C'est un très grand nombre. Et malgré tout, le travail qu'ils ont fait n'a pas été ni tracé, ni évalué. Et on peut voir les résultats, comme on l'a dit, qui ne sont pas forcément encourageants.
Bien, docteur Dirk Chaka, coordonnateur du consortium Le Congo n'est pas à vendre. Merci.
Merci beaucoup à Radio Capi, merci beaucoup ce jeudi.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Jean-Claude Tiala a été à la mise en onde, Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Jeudi Daniel au micro. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.